BFM Business présente l'émission qui vous sort de votre boîte. Happy Boulot, le mag, Laure Closier.
Bonjour à tous et bienvenue dans Happy Boulot, le mag. 12% des télétravailleurs admettent travailler depuis leur canapé, 4% depuis leur lit et 4% carrément par terre. Vous vous faites mal au corps et on va essayer de trouver des solutions avec Fabienne Broucarel, rédactrice en chef de My Happy Job. Elle va nous détailler une étude très intéressante. Après les télétravailleurs, les télémanagers. Eric Albert, psychiatre et cofondateur de YouSight, pense qu'il faut absolument tout revoir dans leur rapport à l'autorité. Il va nous donner un mode d'emploi pour les télémanagers. Et puis une piste pour la reconversion, une boîte de formation propose un CDI avant même d'avoir commencé la formation. Comment ça marche? On va voir ça avec le patron de Fitech.
BFM Business, Happy Boulot, le mag, l'exécutif de la semaine.
Et notre exécutive de la semaine, c'est Fabienne Broucarel. Bonjour, rédactrice en chef de My Happy Job. C'est un webzine, c'est un magazine sur le web où vous parlez de qualité de vie au travail. Vous avez plein de choses à raconter en ce moment avec le télétravail. Il y a une étude de Fellow qui est sortie récemment. C'est un fournisseur de solutions ergonomiques de bureaux. Ils ont interrogé un certain nombre de télétravailleurs. Et les résultats, c'est qu'ils maltraitent leur propre corps.
Alors, en effet, on se rend pas compte forcément en télétravail. Surtout qu'on était parti l'année dernière pour quelques mois de télétravail. On était loin de se douter qu'on allait être en télétravail contraint quasiment à temps plein pendant un an. Et l'étude montre bien qu'il y a 40% par exemple des gens qui souffrent de fatigue oculaire, plus d'un tiers des télétravailleurs qui souffrent de mal de dos, de mal au cervical. Donc oui, en fait, le télétravail peut maltraiter notre corps, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a plein de solutions. Et déjà, une chose assez facile à faire, c'est de bouger plus pendant notre journée de télétravail. Parce que je vous invite à comparer le nombre de pas que vous faites tout simplement avec votre smartphone quand vous allez au bureau rapport à quand vous êtes chez vous en télétravail, et vous verrez que ça fait mal et qu'il n'y a pas beaucoup de pas au compteur quand on est chez soi.
Mais c'est quoi, c'est marcher en téléphonant alors? C'est...
Mais par exemple, c'est une très bonne idée. Alors loin de moi l'idée de vous dire d'aller faire forcément un footing le midi, hein, on va être clair. Par contre, aller marcher pendant vos pauses, travailler debout, faire vos calls. Si vous n'êtes pas obligé de rester devant votre ordi, vous pouvez sortir, faire votre rendez-vous en marchant, faire des étirements aussi. Il y a plein de choses très simples, hein, qu'on peut faire chez soi, et c'est peut-être encore plus facile chez soi qu'en plein open space. Donc du coup, c'est pour trouver des moments dans la journée où on arrive à bouger et de ne surtout pas rester toute la journée dans la même position de 8h à 18h.
Ce qui peut parfois arriver. Seulement la moitié des télétravailleurs ont un poste de travail à domicile adapté. 12% admettent travailler depuis leur canapé, 4% depuis leur lit et 4% par terre. C'est quoi? C'est les gens qui pensaient que ça allait durer un mois, qui continuent à être mal?
On le voit beaucoup. En effet, les gens se disaient que ça allait être temporaire, donc pas besoin d'un bureau, pas besoin d'une chaise ergonomique.
Là, c'est un an, quoi.
Voilà, exactement. Après, on n'est pas tous lotis de la même manière chez soi, donc on ne peut pas tous avoir un bureau dédié à son espace de travail. Par contre, il y a des solutions plus faciles de se dire on peut travailler, certes, sur sa table de cuisine, mais on essaye d'avoir, je sais pas, par exemple quand on a un ordinateur portable, un clavier déporté, une souris, pour pas se faire mal au trapèze toute la journée. Donc du coup, il y a des choses qu'on peut mettre en place, et travailler de son lit en soi, c'est pas un drame, on va pas culpabiliser les gens. Par contre, on évite d'y passer toute la journée, c'est-à-dire que moi, ce que je conseille, c'est selon les missions que vous faites, les tâches que vous êtes en train de faire, changer de position, aller sur la chaise de votre cuisine, dans le salon, un peu vous reposer dans la chambre en regardant vos mails, c'est très bien, mais du coup, essayer de varier vraiment les positions, parce que sinon, oui,
la solution, c'est vraiment le mouvement.
Oui, vraiment.
Même le petit mouvement chez soi, mais...
Exactement, parce qu'on a tous connu la médecine du travail, où on est reparti avec un beau flyer en se disant qu'il faut être à 90 degrés, les jambes. Donc ça, on tient un quart d'heure, hein, généralement. Mais dans sa journée, on n'arrive pas à être toute la journée bien positionné, le regard bien comme il faut devant l'écran. Donc c'est important de régler quand on a une chaise de bureau ergonomique, on la règle bien. La hauteur de bureau, si on a une table, on essaye aussi de ne pas être trop voûté, par exemple. Mais après, l'idée, vraiment, ce qui aide au quotidien, en effet, c'est le mouvement. Et on peut aussi très bien travailler debout. Par exemple, si vous avez une table haute barre, lisez vos mails debout, c'est très bien. Donc vraiment, essayez de changer de position.
Il y a de grandes discussions avec les partenaires sociaux sur ce que l'entreprise doit financer chez le salarié comme poste de travail. Là, on voit que dans 50% des cas, il n'y a pas de financement, il n'y a pas d'obligation aujourd'hui qui pousse l'entreprise. 900 euros ça coûte. Il y a les employés qui ont dépensé plus de 900 euros sur de l'équipement de bureau. C'est énorme. 900 euros,
c'est énorme. C'est-à-dire 900 euros, je pense qu'on peut se faire un beau bureau vraiment.
C'est la chaise qui coûte cher, c'est...
Alors, la chaise coûte cher. Après, pour pas effrayer les gens, parce qu'il n'y a pas besoin de dépenser 900 euros pour se faire une bonne installation chez soi, l'important, ça va être la qualité de la chaise. Si vous voulez pas forcément avoir une chaise de bureau chez vous, vous prenez une chaise de cuisine, forcément avec un dossier par contre et pas d'accoudoir. Et essayez, par exemple, d'avoir un support dorsal et, comme je le disais, un clavier déporté, une souris. Et si vous travaillez sur un ordinateur portable, ça peut être intéressant d'avoir un support qui surélève, par exemple.
Mais quand vous voyez ce montant, vous dites
dites, ok, il y a des gens qui pensent que ça va s'arrêter et qui sont toujours dans le provisoire qui dure, mais 900 euros, il y a des gens qui pensent que c'est à tout jamais.
Oui, exactement. Et après, je pense qu'on peut trouver, le bon équilibre sans dépenser des sommes folles. Quand je vous parlais, par exemple, d'un support pour surélever votre ordinateur portable, des bouquins, ça peut aussi faire l'affaire. Donc, il faut essayer de trouver le bon compromis entre ce dont vous avez vraiment besoin et des choses qu'on peut compenser par des choses qu'on a déjà chez soi, un coussin dans le dos si on ne peut pas acheter un support. Et après, il y a beaucoup d'entreprises aussi qui ont mis en place des kits télétravail, pas pour 900 euros, mais pour des sommes inférieures, mais qui permettent déjà d'acheter certains
matériels. Enfin, on peut avoir accès au matériel de bureau de l'entreprise.
Exactement.
Être un professionnel, en fait, de l'achat de matériel.
Tout à fait. Et il existe aussi, par exemple, des entreprises qui ont réduit leur surface ou qui ont déménagé et qui en ont profité pour distribuer les doubles écrans ou la chaise dont on parlait aux salariés. Et du coup, ça a permis à certains de s'équiper. Donc, on voit qu'il y a vraiment des dispositifs assez différents au niveau des entreprises. Mais comme vous le disiez, il n'y a pas non plus d'obligation légale. Donc, c'est un peu au cas par cas selon les entreprises.
Le vrai problème du télétravailleur, c'est l'isolement. On voit que là, 33% se sentent seuls, isolés. Mais je pense qu'il y a tout le temps des moments où on se sent seul en télétravail. Comment on fait ? Est-ce qu'il y a une solution ou finalement, c'est ça, la crise sanitaire ?
Alors, la crise sanitaire, forcément, je dirais, augmente ce sentiment d'isolement. Parce que quand on est en télétravail, heureusement, normalement, on peut sortir déjeuner le midi. On peut avoir d'autres activités qui font qu'on ne va pas passer sa journée seule. Là, forcément, en termes de... avec le couvre-feu, les périodes de confinement, ça a accru le sentiment d'isolement. Les outils digitaux peuvent être formidables pour ça, on peut voir ses collègues par visio, par
ouais,
Zoom.
Mais bon.
C'est pas pareil, on est d'accord. Voilà. Mais ça peut permettre de se faire des fois des temps de détente parce que spontanément au bureau on va à la machine à café et là on se dit que ça fait du bien aussi en tout cas de parler aux gens. Moi ce que je déconseille c'est les journées où on ne parle à personne et qu'on est vraiment dans un tunnel chez soi tout seul. Là ça peut être plus compliqué à la fin de la journée. Donc promener des temps pour appeler, on n'est pas obligé d'être en visio H24 non plus. Des temps d'échange et vous pouvez aussi appeler vos collègues pour autre chose que du professionnel. Ça fait aussi du bien. Et après profiter par contre en télétravail on gagne du temps. On n'a pas l'heure de transport le matin, l'après-midi ou du coup on a du temps en plus, qu'est-ce que vous faites de ce temps-là ? Vous pouvez participer à des webinaires en ligne, suivre des formations, aller regarder des TEDx et du coup tout
vous
ça va
pas
vous...
obligé de travailler
tout le temps. Voilà, exactement. Et ce temps-là où on assiste à des webinaires où on cultive son réseau autrement, on ouvre aussi son réseau et ça je dirais que c'est le plus, mais faut se l'accorder, faut réussir à vraiment faire de cette flexibilité un atout.
Vous observez l'ensemble du monde du travail, c'est quoi les bonnes pratiques ? Vous avez vu des boîtes avoir des super bonnes idées ?
Alors, les bonnes idées, quand pour par exemple le sentiment d'isolement ou le mal-être qu'on peut avoir, il y a beaucoup d'entreprises qui ont fait appel à des lignes d'écoute psychologique. Avoir un tiers, ça peut être intéressant parce que du coup, les salariés peuvent plus se confier. Des entreprises ont mis en place aussi des choses très intéressantes à distance pour continuer d'animer aussi. Ça peut être des webinaires, ça peut être des ateliers.
Alors, on a vu des bars, des social bars se créer.
Alors, la limite, c'est qu'il ne faut pas que ce soit contraignant pour les salariés qu'on se dise c'est bon, je passe ma journée sur Zoom et en
plus. Mais ça fait du bien.
Mais ça fait du bien parce que ça recrée un peu de ludique, d'informel, des choses très sympas. Il y a des entreprises pendant le confinement qui ont mis des newsletters positifs, c'est-à-dire qu'il y avait la feel good newsletter et on partageait ce qui allait bien. Et ça aussi, ça fait du bien parce qu'on est en période de crise, donc on a tendance à se focaliser sur ce qui ne va pas. Donc faire attention si à ce qui va bien, c'est intéressant. Et après, je dirais que c'est aussi au niveau des équipes. Les managers, des fois, ont mis des choses très bien en place pour garder lien, continuer à avoir des choses ensemble. Donc je dirais qu'il y a quand même pas mal de choses à faire intéressantes.
Fabienne Boucaret, vous regardez le monde du travail comme moi, je voudrais avoir votre avis sur un certain nombre de modes dans le monde du travail. Vous me dites stop ou encore les CV, on arrête ou on continue ?
Alors on continue mais de manière originale. On n'est pas obligé de faire un CV classique. Je pense, vous avez peut-être vu sur les réseaux sociaux cette jeune qui voulait travailler dans le sport, qui a fait son CV au format de l'équipe. C'est top.
Donc ça marche.
Ouais, ça marche, c'est sympa et faut assurer derrière en entretien, mais c'est sympa.
Les horaires, c'est has-been ou pas ?
Ça peut. Alors en cas de télétravail, je dirais que faut s'en fixer parce que sinon on peut ne faire que travailler. Après,
c'est le contraire. Les horaires, ça protège parfois.
Parfois, ça protège. Oui, tout à fait. Et par contre, non au présentiel, forcément 8h, 18h ou 20h, on peut travailler bien.
Les tests de personnalité, vous êtes pour ou contre ?
Intéressant avec des bémols pour pas enfermer les gens dans les cases, mais je trouve ça intéressant de mieux se connaître avant de travailler ensemble.
Les team building, dès qu'on pourra en refaire.
Ça fait quand même du bien. Après, il faut aller au-delà peut-être des choses vues et revues et surtout que ce soit que ça fasse plaisir à votre équipe.
Les salles de sieste adaptées, il n'y en a plus.
Les salles de sieste, il n'y en a plus, mais par contre, je suis pour la micro-sieste. Essayer en télétravail, c'est quelque chose qu'on peut essayer, donc ça, j'approuve et ça peut faire du bien.
Micro, 20 minutes.
Ouais, 15-20 minutes, ça fait du bien. Franchement, tester.
La mode du feedback.
Top, il y a quelques...
Il n'y en a pas trop, quand même.
Oh, non, je pense qu'un feedback, ça fait du bien, surtout à distance. Mais par contre, il faut que ce soit authentique et très ciblé. C'est-à-dire, pourquoi on fait un feedback. Et plus c'est concret, plus ce sera apprécié. Mais ça fait toujours du bien.
LinkedIn, on continue à fond?
Ah, on continue. Moi, j'adore ce réseau. Et c'est super pour faire des nouvelles rencontres et partager des infos.
Et Clubhouse?
J'y ne suis pas encore, mais je vois beaucoup de choses passer. Et certains parlent déjà d'une overdose. Donc, j'avoue que j'attends un peu, moi, de voir comment ça évolue.
Moi, j'ai 5 minutes, mais j'ai pas compris encore comment ça marchait. Pour l'instant, j'ai pas encore bien compris. Merci beaucoup, Fabienne Boucaret, d'avoir été avec nous, rédactrice en chef de My Happy Job. On a pris des nouvelles des salariés. On va maintenant parler des managers.
BFM Business, Happy Boulot, le mag. Better Together.
Et on va parler des managers avec Éric Albert. Bonjour, psychiatre. Bonjour. Et cofondateur du cabinet de conseil YouSide. Dans quel état sont les DRH et les managers, Éric ?
Ben, ils sont sursollicités les uns et les autres. Alors pour les managers, c'est très intéressant parce que souvenons-nous quand même de revenons quelques années en arrière. Le grand truc, c'était l'entreprise libérée.
Oui.
L'entreprise libérée, c'était quoi ?
On oubliait. C'était il y a longtemps.
C'était on se libère des qui ? Des managers. Mmh.
Chacun décide pour lui.
Bon, premier confinement, on dit oh là là, ça marche vachement bien, mais à quoi sert le management intermédiaire ? Et puis. Depuis la fin du premier confinement, là, ça commence à être un peu plus compliqué, plus difficile. On s'aperçoit que les collaborateurs vont pas bien, que on a plus de dynamique d'équipe, que la créativité baisse, que les gens souffrent et donc râlent énormément et donc perdent un peu en productivité, que l'adhésion à l'entreprise, toute une génération ne rêve que d'une chose, c'est d'aller de travailler en distanciel, en se baladant dans le reste du monde. Entreprise, si l'entreprise me permet ça, mais le lien à l'entreprise est en train d'être perdu de façon très très impressionnante. Et là, tout le monde se retourne vers les managers en disant mais alors qu'est-ce que vous faites ? Et là, vous faites quoi là ? C'est comment vous occupez des gens ? Mais en fait, c'est quand même votre boulot de vous occuper des gens. Et là, on retrouve le cœur de ce que c'est que le management, c'est l'humain. C'est-à-dire que j'ai une population qui sont des êtres humains, émotionnels, qui ont des difficultés, qui vivent des choses difficiles. Et ces gens-là, eh bien, il va falloir que je m'occupe d'eux pour que ils soient à la fois bien dans leur peau et qu'ils puissent donner le meilleur pour l'entreprise.
Mais alors comment je fais ? Je les appelle tous les soirs pour savoir s'ils ont passé une bonne journée, s'ils ont bien travaillé. Bah oui.
Ils sont un peu paumés parce que c'est évident. Alors c'est les modes de management qu'on leur a pas appris. Et personne ne sait bien comment faire aujourd'hui. Parce que qu'est-ce qu'on n'a plus en n'ayant plus le présentiel ? On n'a plus, évidemment, tout ce qui est dans l'informel, le convivial, on se rencontre, on se croise, on se dit bonjour, ah tiens, à propos. Et puis, l'aléatoire. C'est-à-dire que je croise plein de gens que je n'avais pas pensé croiser, mais justement, je règle plein de choses. Parce que c'est un peu dans l'air. Et je me dis, ah ben tiens, à propos, est-ce que t'as vu tel client ? Est-ce que t'as vu, etc.
Donc, là, je ne vois que des gens que je dois voir.
Je ne vois que des gens que je dois voir sur des sujets de contenu sur lesquels je suis complètement centré sur le contenu du boulot. Et je perds la maîtrise de ce qu'ils font dans la journée à proprement parler. Je perds le regard. Hein, je ne les ai plus sous les yeux. J'ai des gens qui commencent à se plaindre et à souffrir. Donc, il y a quelque chose de très, vraiment extrêmement intéressant. La sérendipité doit
se mettre
en œuvre.
C'est vraiment la gestion de la matière humaine. Comment je fais ?
Le remplacement de cet aléatoire que j'ai pas, de ces liens avec la personne que j'ai pas. Comment je l'invente ? Et il y a certainement pas une manière de l'inventer, mais ce qui est certain, c'est que je dois passer beaucoup plus d'informations qu'avant, parce que les gens se passaient l'information entre eux, ils ne se la passent plus, justement. T'es pas au courant de ça.
Ça veut dire vérifier que chacun a le même niveau.
Ça veut dire que faire des points d'information beaucoup plus souvent qu'avant. Donc dire aux gens, et il faut que les gens, comme toujours les managers, ils pensent toujours qu'ils ont dit, et de fait souvent ils ont dit, et les collaborateurs vous disent, on me l'a jamais dit. Donc c'est un manager, il sait qu'on lui a dit quand les collaborateurs lui disent, ah ouais, tu nous as déjà dit 3 fois. D'accord, là ça commence à être bien. Le manager, il va devoir se répéter quand on lui dit, tu nous as dit 3 fois, c'est bien, c'est ce qu'il faut. C'est mon job de te le dire 3 fois pour être sûr que
c'est bien passé.
Tu l'as bien intégré. Donc beaucoup plus communiquer. Ensuite, il faut absolument avoir du temps dans lequel on se parle de soi. Alors ça peut être entre collaborateurs eux-mêmes, mais il faut structurer sur le temps de travail des temps de pause entre eux. on se choisit, on est 3-4, on fait une pause ensemble. Ou de quoi on parle? Du dernier film qu'on a vu, de la série, de problèmes que j'ai avec mon gamin et que j'arrive pas à faire.
On organise la pause.
On organise la pause à distance parce que c'est dans la pause que je capte l'humain.
Mais on invite le manager.
Ou pas.
Parce que parfois, dans la pause.
Le manager doit organiser ça entre ses collaborateurs et vérifier que personne y a trop dans la raquette.
Son rôle de mettre en place l'informel quand même.
Mais oui, c'est son rôle de mettre en place l'informel et de vérifier que l'informel se passe. Puis lui, il doit prendre du temps. Des temps, alors à avoir le rythme en fonction des populations qu'il a et du nombre de personnes qu'il a, mais il doit prendre du temps dans lequel il parle des gens sur leur vie à eux. Alors c'est là où on voit bien qu'il y a beaucoup de collaborateurs qui n'ont pas envie de parler à leur manager de leur vie.
Ah oui.
Donc, comment ça va dans ta vie? Qu'est-ce que tu fais le week-end? Ça se passe comment? Et avec tes enfants, etc. Ouais, ça va. Non mais, alors attends, je veux juste vérifier que...
Tu vas bien.
Tu vas bien, que tu dors la nuit, que tu bosses pas trop en ce moment, que t'es pas débordé, que t'as pas non plus de vide, que t'as juste la bonne charge.
Mais c'est un suivi psy, ça. Enfin, c'est un suivi.
C'est pas un suivi psy, parce que je suis pas dans le sens où je vais pas soigner la personne. Je suis jamais en charge de la soigner.
Que ça va.
Je suis là pour détecter que ça pourrait ne pas aller bien. Mais c'est là où, justement, il y a l'aspect vertical, le manager. Il peut pas tout faire et parfois, il peut passer à côté de trucs parce que le collaborateur a juste pas envie de lui parler. Et puis, il y a l'aspect horizontal entre les gens. Et là, il faut mettre une culture et développer les acteurs en disant « Nous sommes co-responsables les uns des autres. » Et donc, si je vois qu'un de mes collègues, justement, il vient plus aux pauses. Quand il est aux pauses, il dit rien. Quand on lui pose des questions, ça va.
Il s'évapore, quoi.
Ouais, eh bien, je m'inquiète. Et je l'appelle en direct, et s'il veut toujours pas parler, j'alerte autour de moi. Je dis...
Donc c'est une responsabilité collective dans l'entreprise.
Beaucoup plus qu'on a de façon informelle dans la vie quotidienne habituelle, normale, entre guillemets, en présentiel. Parce que quand je vois quelqu'un qui va pas bien... il faut se forcer. Il faut construire ce qu'on faisait de façon naturelle. C'est-à-dire que j'avais mon collègue de bureau qui allait pas bien, je lui disais, écoute, ça vient, on va prendre un café, on va discuter. Je ne laissais pas ne pas aller bien. C'était pas possible. Ouais. Alors que là, je le vois pas. Donc je dois faire en sorte de restructurer de façon artificielle, parce qu'on a besoin de ça les uns les autres par rapport aux autres, de ce soutien social.
Merci beaucoup Eric Albert pour cette formation au télémanagement. J'espère que vous allez ouvrir une petite boutique pour former les télémanagers.
Mais chez YouSide, on forme les télémanagers.
Voilà, vous avez déjà donné une substantifique moelle, un petit mode d'emploi de ce qu'il faut faire. Restez avec nous dans un instant, on va parler reconversion et si vous faisiez une formation, mais avec un CDI à la clé.
BFM Business, Happy Boulot, le mag. Business Case.
Reconversion professionnelle et si vous sautiez le pas, on est avec Michel Seban. Bonjour, vous êtes le PDG de Fitech. C'est une entreprise spécialisée dans la formation et la reconversion. Vous formez 4000 stagiaires par an. Et votre spécificité, c'est que vous réfléchissez aux débouchés. Vous essayez de signer des CDI avec des entreprises avec lesquelles vous travaillez. Comment ça marche?
Alors, c'est tout simple. On a décidé de mettre l'entreprise au cœur du dispositif, au cœur du projet de reconversion de tout stagiaire. C'est-à-dire que, usuellement, un stagiaire qui veut se reconvertir, il fait une formation, il va voir un centre, il dit « je veux me reformer », le centre lui dit « oui », et c'est parti. Et nous, on dit « non, ça suffit pas ». Il faut qu'une entreprise dise « oui, forme-toi et après je t'embauche ».
Vous partez du besoin de l'entreprise,
voilà,
en fait.
Voilà, et on part du besoin de l'entreprise. Nous, pour ouvrir une session de formation, on va d'abord chercher des intentions d'embauche. C'est ça le plus important. Des entreprises qui disent « moi, j'en veux deux, sur cette session, sur ce métier, j'en veux deux, j'en veux trois, j'en veux six ». J'ai besoin de deux profils, de trois profils, de quatre profils. Et on va en fabriquer. En fait, on n'est que sur des métiers en tension. C'est-à-dire sur des métiers pour lesquels il y a plus d'offres d'emploi que de gens compétents et disponibles. Donc on va en fabriquer. Si on les trouve pas, si l'entreprise ne les trouve pas, nous on va pas les trouver non plus. Donc on va les fabriquer. On va prendre des gens qui ont un bon prérequis, qui ont surtout une forte motivation, l'envie d'y aller. Et avec une formation courte mais intensive, parce que là on est dans les formations métiers. On n'est pas dans l'école, on est dans le monde professionnel, puisqu'on est directement rattaché à l'entreprise. On va présenter les gens aux entreprises. Les entreprises vont sélectionner ceux pour qui ils déterminent qu'il y a un potentiel. Ces gens-là, on va les former pendant 3 mois, et au bout de 3 mois, ils rentrent en CDI dans l'entreprise.
Donc l'entreprise donne son accord ? au préalable. Il y a un entretien qui dit voilà, vous allez vous former et vous rentrerez chez moi. Faut que tout le monde soit d'accord.
Son accord, elle le fait sous la forme d'une promesse d'embauche. Il n'y a pas plus simple comme
accord. Sauf que le stagiaire en lui-même, il ne connaît rien, ni au secteur, ni à la formation. Comment il peut lui-même dire qu'il est motivé alors que parfois, il ne connaît pas le métier.
C'est l'originalité du système, c'est qu'il postule et il va même à un entretien d'embauche sur un métier qu'il ne sait pas faire.
Bah oui, ça n'existe pas, normalement.
Voilà, mais le recruteur le sait. C'est quand même un détail qui est important. Le recruteur le sait. Et donc, le recruteur, lui, qu'est-ce qu'il a ? Il voit un potentiel. Donc une personnalité avant tout, soyons clairs, c'est ça qu'on embauche. Et il a le parcours de formation qu'il connaît par cœur, qu'on a même créé avec lui. C'est-à-dire que le parcours de formation a été créé avec les entreprises du secteur. Donc il fait le mix dans sa tête en voyant le candidat, entre le candidat tel qu'il est aujourd'hui, plus le parcours de formation.
C'est-à-dire qu'il n'y a que les soft skills qui comptent, que les compétences douces, que la personnalité...
Et quelques prérequis. Et quelques prérequis, parce qu'en 3 mois, on ne peut pas tout apprendre sur un métier. Donc on a besoin quand même d'un socle de base. Mais que là, pour lequel on trouve beaucoup de gens parmi les demandeurs d'emploi ou les jeunes diplômés.
Vous avez formé 4000 stagiaires, ça fait 4000 CDI aujourd'hui ou pas ?
Oui.
Vous avez un taux de réussite de 100% avec cette méthode.
On est à 97%, oui. Jusqu'au Covid.
Oui, jusqu'à la fin du monde, et ça ne compte pas. Qu'est-ce qui fait que parfois ça ne marche pas ? C'est que finalement la découverte du métier ne plaît pas, finalement...
Il peut y avoir des erreurs de casting, mais alors ça veut dire qu'on s'est tous trompés. Le candidat, nous et l'entreprise. Ça fait beaucoup d'erreurs. Donc, c'est rarissime. Après, c'est un problème peut-être humain, hein, de rapport humain après dans l'entreprise, une fois intégré. Ou un problème de mission. C'est-à-dire que l'entreprise propose un CDI. Donc, elle pense qu'elle va avoir des missions du travail pour la personne qui va rentrer. Et puis, 3 mois, ça se passe 3 mois après. Et 3 mois après, il se peut qu'elle ait perdu un contrat.
Vos stagiaires, c'est des perles rares alors. C'est un petit trou de souris. Il faut trouver la personne en adéquation avec l'entreprise. Vous avez du mal à recruter des stagiaires ?
Au contraire, les candidats, il y en a beaucoup, puisqu'on prend des gens qui ont juste un socle de compétences et une motivation pour ces métiers-là. Sur les métiers du numérique, aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes ou de moins jeunes, et surtout de demandeurs d'emploi, beaucoup de gens qui sont dans des métiers ou dans des secteurs un peu en perdition, on nous dit, et qui ont les bases ou le socle de compétences suffisant pour accéder à ces formations. Donc on est attractif pour les candidats et on est attractif aussi pour les recruteurs qui en ont besoin. Donc c'est un gagnant-gagnant complet. Tout le monde est satisfait du processus.
Vous dites qu'il y a des prérequis qui peuvent être importants, mais est-ce que vous voyez des vraies reconversions profondes, des gens qui étaient artisans qui vont dans le numérique ou des gens à 50 ans qui vraiment changent complètement de secteur ?
Alors, tout le monde ne peut pas devenir tout. Donc, d'ailleurs, nous, on n'appelle pas ça reconversion, on appelle un mot barbare qui s'appelle reskilling. Alors, skill en anglais voulant dire compétence, reskilling, j'explique quand même. Donc, ça veut dire remise en compétence. Par rapport à la reconversion, c'est que c'est pas un changement radical de métier. C'est par exemple un comptable qu'on va transformer en consultant intégration de logiciels, de RP dans une entreprise.
Vous le remarketez presque.
Alors, on le remasterise en format digital. En fait, la transformation digitale des entreprises, ce n'est ni plus ni moins que la transformation, que la numérisation d'un métier. Un ERP, un logiciel de gestion d'entreprise, c'est un comptable qu'on a digitalisé. Et donc, en prenant des gens qui savent faire les métiers de base, ils seront capables de...
Vous les mettez au goût du jour.
Voilà,
Vous les mettez dans un marché de l'emploi dynamique alors qu'ils en étaient peut-être loin.
Voilà, un des rares marchés de l'emploi où ça embauche, où ça recrute, où il y a des besoins, où il y a encore des tonnes de choses à faire parce qu'on n'en a pas fini avec le digital. On en est loin.
Merci beaucoup Michel Seban d'être venu.
C'est moi.
Warfitech, l'entreprise de formation et de reconversion. Alors on va dire reconversion, on peut dire upskilling si vous voulez, mais reconversion professionnelle qui vous propose un CDI avant même d'avoir commencé votre formation. Merci beaucoup d'avoir suivi Happy Boulot Le Mag. Je vous souhaite un excellent week-end sur BFM Business et je vous dis à la semaine prochaine.
BFM Business, Happy Boulot, le mag. L'émission qui vous sort de votre boîte.